On va parler de tennis dans deux petites secondes avec Hélène Petit. Le temps de vous rappeler qu'au circuit Gilles Villeneuve, on est au 50e des 70 tours du Grand Prix du Canada. Sébastien Vettel toujours en tête, 5,4 secondes devant Valtteri Bottas. Suivent dans l'ordre Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen. Je vous rappelle que Lance Stroll, accrochage dès le premier tour. Il n'y avait même pas un demi-tour de fait, accrochage avec Brendan Hartley de Toro Rosso. Et ça a été la fin des émissions pour les deux pilotes. Pas de dommages autres que matériels. Les deux pilotes sont sortis indemnes de leur voiture. Donc, ce matin, il y avait un match qu'on surveillait, mais dont on connaissait un peu le résultat avant même que ça commence. On va en parler avec Hélène Pelletier, qu'on joue au bout du fil. Allô, Hélène?
Bonjour Pierre.
Donc Nadal qui l'emporte en trois manches, 6-4, 6-3, 6-2 contre Dominic Thiem, c'est pas une grosse surprise là.
En fait, tu sais, moi j'avais de l'espoir avant
ouais.
le début du match.
Oui, mais de l'espoir, ça veut pas dire que c'est réaliste ça.
Non, moi oui, c'était réaliste, puis laisse-moi au moins t'expliquer okay. pourquoi, ok?
Oui, ok.
Tu seras après si tu es d'accord avec moi.
Ok.
Nadal, il ressemblait dans mon estimation à moi, puis là, je vais faire un portrait à gros traits, là, tu vas dire j'exagère, mais il faut bien s'amuser un peu.
Oui.
Il avait des allures de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, durant okay. le tournoi. Poussif, comme c'est pas possible, d'entrée de jeu devant Simone Bolelli, qui avait même perdu au dernier tour des qualifications, mais qui est un joueur qui frappe la balle très, très bien, très, très fort. Ça a pris 3 heures pour que Nadal réussisse à le battre mm-hmm. en 3 manches. Tu t'imagines, si ça avait été en 5-7, ça aurait duré 7 heures.
Ouais.
Et c'était compliqué comme c'est pas possible. Par la suite, il enchaîne bien devant Pella et Gasquet.
Ouais.
Contre le jeune Merterer, tout va pour le mieux, mène 2-7-0, sert pour le match, passe complètement à côté du moment. Et finalement, ça s'avère très compliqué, on est forcé d'aller au bris d'égalité, mais il passe. Et contre Schwartzmann, s'il n'y a pas de pluie, il y a de très, très bonnes chances que le
ouais.
plus petit joueur dans le top 100, à 5 pieds 7 pouces, Diego Schwartzmann, 12e au monde, passe.
Ouais.
Parce qu'il menait 1-7-0, il menait avec un bris d'avance à la 2e manche, et il l'écrasait. C'était fascinant de voir Schwartzmann être le plus puissant des deux. Alors, certainement qu'il a réussi à renverser la vapeur, puis dans la vie, il faut profiter de
ce
que Dame Nature nous envoie, ou appelle ça comme tu voudras,
oui,
le bon Dieu, les événements, la chance, appelle ça comme tu voudras, d'accord?
Oui, oui. Il y en a qui sont sauvés par la cloche à la boxe, lui, il était sauvé par la pluie.
Oui, juste avant le soccer punch, OK?
Oui,
alors, c'est ça. Alors, Nadal passe, finalement, puis on revient le lendemain, puis 3 fois durant la quinzaine, il a joué des matchs en 2 jours.
Okay.
C'est pas de sa faute, c'est en raison de la pluie,
ouais.
mais c'est parce qu'aussi certains de ses matchs étaient plus longs que nécessaire, tu comprends?
Mm-hmm. Ouais.
Alors Nadal, évidemment, demeurera toujours dans un sens un gentil garçon. Tout le monde, je lisais des commentaires là, des gens qui travaillent derrière la scène pour le tournoi, et tout le monde l'adore, il est poli avec tout le monde, dit bonjour à tout le monde, peu importe ce qu'il vit, il est d'une gentillesse incroyable, puis pour l'avoir interviewé les week-ends avant la Coupe Rogers, je peux te l'affirmer, il va donner la main à tous les techniciens.
Mm-hmm.
J'ai jamais vu personne d'autre faire ça. Tu comprends? Il est le
ouais.
seul à être vraiment très gentil, mais quelquefois, sa personnalité est très, très complexe sur un terrain de tennis, puis au moins, ben il s'en est bien sorti devant Juan Martín del Potro. Il a joué
ouais.
un set serré le premier, par la suite, il a déroulé. Donc, Nadal, d'un côté, nous laissait, c'est sûr qu'il n'a jamais en 10 finales auparavant, c'était sa 11e finale à Roland-Garros. En finale, il n'a jamais perdu Roland-Garros.
Moi, je veux jouer à l'avocat du diable. Je vais te dire, il a fait par exprès pour que ça reste serré un peu, là, pour qu'il y ait un show.
Non.
Non.
Non. Écoute, pense à quelque chose de mieux que ça, là, Pierre,
okay.
puis on se reparle là-dessus. Puis d'un
ouais.
côté, Dominic Thiem l'a battu 3 fois
ouais.
en 2016 à Buenos Aires. En 2017 à Rome, puis cette année en 2018 à Madrid, mm-hmm. donc les 3 fois sur terre battue.
Ouais.
Mais tu me diras que Nadal en 5-7, c'est une autre paire de manches, puis tu as raison. Mais moi, j'avais aimé la façon que Thiem s'est comporté. Il a été quand même assez rapide dans ses matchs lors de la première semaine. Il a perdu un set ici et là, mais quand même, s'est bien comporté. Puis vraiment, celui qui aurait pu lui donner énormément de fil à retordre, Alexander Zverev en quart de finale,
mm-hmm.
un match qu'on attendait depuis le début de l'annonce du tableau. Il s'est blessé une jambe à la 4e partie, donc ça a été un non-match. Alors, tout était en place, la confiance, il sait qu'il est capable de battre Nadal, puis on sait également, vu qu'il n'est pas trop fatigué durant la quinzaine, qu'il va pouvoir durer pendant 5-7,
ouais.
si 5-7 il y a. Mais malheureusement, Pierre, Thiem a tellement mal servi.
Ah oui?
Contre Nadal, ça prend tous les éléments. Mm-hmm. Faut que tu sois fort en retour, faut que tu sois fort dans l'échange, faut que tu sois rapide, faut que tu aies du coffre, faut que tu sois capable de courir un marathon en sprintant tout le long. Oui. Faut que tu joues. Et puis j'ai aimé le commentaire de Fabrice Santoro, il dit il faut que tu joues contre Nadal le meilleur point de ta vie, point après point.
C'est ça.
Et malheureusement, Thiem était tellement pas beau au service que Nadal a eu 17 balles de bris pendant 2h42. Il a brisé 5 fois dès le départ de la première manche, départ du deuxième set, puis à la deuxième partie de Thiem au service, troisième manche. Il y a eu un petit thrill au premier set parce que Thiem a refait le bris de service, mais malheureusement, alors qu'il servait à 4-5, il a connu un autre moment pourri au service. Ouais. Alors, Nadal a eu des crampes à la toute fin, mais Thiem n'arrivait pas plus à le dominer dans l'échange. Il y a quand même eu des moments extraordinaires, Pierre, des échanges vraiment à couper le souffle, puis on voit le beau jeu de jambes de Dominique Thiem, jusqu'à quel point il est exceptionnel en jeu de jambes parce qu'il a grandi sur terre, puis ça finit toujours par paraître. Mm-hmm. Mais honnêtement, Nadal a été trop présent, trop fort. Il a, lui, cerné les moments importants, tandis que Thiem, malheureusement, avec ce service qui coinçait, c'est rien pour aider sa cause.
Est-ce que ça a été inquiétant, je pense, au troisième set où Nadal avait des problèmes à l'avant-bras?
Bien, en fait, c'était à la main.
OK.
Durant la quinzaine, il se faisait poser des bandages au poignet à l'avant-bras parce qu'il disait, tu sais, les nouveaux produits aujourd'hui, puis surtout Nike, il y a beaucoup, beaucoup d'élastane dans les produits. Donc, les poignets, là, tu sais, qui sont supposés être en ratine, mais qui sont dans une espèce de dry fit glissant, là. Tu sais, c'est comme une serviette, tu viens pour t'essuyer avec, puis elle t'essuie pas, là. Mm-hmm. Mais c'est un peu ça le matériel qu'ils utilisent. Okay. C'est un peu, en tout cas, c'est pas en ratine, puis ça devrait être en ratine, comme le fait si bien Lacoste, comme le fait si bien Babola. Mais en tout cas, alors il se faisait poser ça, puis j'imagine qu'à un moment donné, il a aussi plein d'ampoules aux doigts, un peu comme Borg, toujours les doigts bandés, et j'imagine que la circulation, à un moment donné, passait moins bien, puis il faisait extrêmement chaud. Il faisait 25, mais 70 % d'humidité aujourd'hui. Oh, alors lui, il était 30 dès la deuxième partie du match. À chaque set, il est allé changer. Donc, Nadal transpire beaucoup, puis quand il est nerveux, il transpire comme tout le monde, beaucoup plus. Et il commençait à avoir des crampes au majeur de la main gauche, sa main pour son coup droit, pour son service. Mais il courait encore comme un lapin, puis il s'en est sauvé parce qu'on était à la toute fin. Puis encore là, je peux pas te dire que Dominique Thiem m'a vraiment impressionné à ce moment-là parce qu'il en avait l'air, il avait l'air d'en avoir plein sa capine déjà là où on était rendu dans la rencontre. Nadal avait déjà son bris de service.
Hélène, te jouer sur ces surfaces-là, je veux savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça demande comme ajustement de passer de la surface dure à la surface en terre battue, techniquement, stratégiquement peut-être aussi?
Ben, en fait, c'est pas pareil du tout, du tout, du tout. C'est quasiment comme un autre sport. Mais les joueurs, maintenant, avec les raquettes dont qu'ils utilisent, sont tellement puissantes que tu peux arriver à ne pas glisser sur la surface, comme l'a si bien fait Agassi, comme l'a si bien fait Maria Sharapova, et gagner quand même Roland Garros si tu es puissant, que tu frappes la balle puissamment dans les coins et que tu ne rates pas. C'est une surface qui va favoriser les joueurs comme Nadal, qui frappent avec énormément de lift, c'est-à-dire d'effet brossé. On frappe la balle vraiment de bas en haut à l'impact, ce qui met sur la balle un effet. La balle tourbillonne très, très rapidement. Donc, lorsqu'elle touche le sol, elle rebondit beaucoup plus haut. Alors, c'est aussi comme ça aujourd'hui que Nadal a réussi à éteindre Dominique Thiem. Et c'est pour ça que Roger Federer n'a même pas daigné se présenter cette année à la porte d'Auteuil, parce qu'il s'est dit, c'est pas vrai que je vais être obligé avec mon revers à une main de frapper des revers à la hauteur des oreilles pendant 3 heures de temps. Là, c'est une vraie souffrance. Ouais. Alors, les joueurs qui, dans le passé, ont eu de la difficulté face à Nadal, Robin Söderling, qui l'a battu à Roland-Garros, des grands joueurs avec un revers à deux mains qui peuvent intercepter la balle alors qu'il est encore en train de monter. Novak Djokovic aussi le fait très, très bien. Andy Murray est capable de le faire également. Alors, c'est une surface qui est très demandante parce que on a l'impression que normalement, un échange qui pourrait durer 3, 4, 5, 6 coups de raquette, ben soudainement, c'est des 15, des 16, des 17 coups de raquette. Et le jeu de Nadal, à la base, il est bâti sur épuiser l'autre, avoir une balle courte et aller dans l'ouverture avec son immense coup droit.
La saison sur gazon débute demain. Dans 3 semaines, ce sera le début de Wimbledon. Est-ce que ce sera le grand retour de Federer?
Ben oui! Ça va être plaisant, n'est-ce pas?
Ben oui.
On a vraiment bien hâte de
j'en
voir
connais
comment...
plusieurs qui ont hâte, oui.
Oui, tout le monde a très hâte. Puis tu sais que Federer a été critiqué pour ne pas jouer le tournoi de... En fait, il n'a joué aucun tournoi sur terre battue. Mm-hmm. Et là, ben la saison terre battue a commencé à Monte Carlo au mois d'avril. Alors, ouais. Ça fait beaucoup de semaines. Comme l'an passé, il a décidé de faire abstraction complètement parce que lui a 36 ans, bientôt 37, qu'il aura le 8 août prochain. Il décide que jouer sur... Parce que toutes les surfaces dures ne sont pas égales nécessairement. Ce qu'on utilise en Australie, c'est pas la même chose qu'au US Open. Mmh. Alors, jouer sur trois surfaces différentes, le dur, le gazon et la terre battue, pour son corps, pour ses problèmes au dos, pour les jambes, c'est trop.
Pour son âge.
On peut le comprendre. Mais son âge aussi.
Ah oui, on va se consoler.
De toute façon, t'as vu Nadal gambader comme un espèce de petit jeune à 32 ans aujourd'hui, oui, pendant toute la quinzaine. Il s'est dit, non, c'est pas vrai que je vais me faire sur ça. Puis la force de Nadal, son gros coup droit qui rebondit haut sur le revers de Federer, comme ça rebondissait très haut sur le revers de Thiem aujourd'hui, ça finit toujours par t'éteindre puis te rendre dans un état de folie quasiment, que ça vient fatigant. Alors, Federer a décidé de ne pas jouer, mais oui, il sera de retour, puis on a bien hâte de le voir, on a bien hâte de voir comment, parce que le tour de force qu'il a fait l'année passée, aller jusqu'au bout à Wimbledon, est-ce que c'est faisable sans jouer, sans préparation, ou s'il peut prendre un arrêt comme ça de plusieurs semaines sur le circuit pendant que les autres s'améliorent pendant ce temps-là? Il y a juste lui qui pouvait faire ça, alors j'ai hâte de voir comment il va réussir ce tour de force-là cette année aussi.
Excellent. Ben Hélène, on te laisse aller, puis merci pour ta belle collaboration. J'aimerais ça qu'on se parle la semaine prochaine. Je sais qu'il n'y a pas de gros tournoi, mais j'aimerais ça qu'on fasse le point. On va être à peu près à mi-chemin dans la saison, qu'on fasse le point sur nos Canadiens et Canadiennes. J'ai plein de questions là-dessus.
Ça marche.
À bientôt. Merci.
Merci. Bye-bye.
Au revoir. Hélène Pelletier, avec qui on parlait de la victoire de Raphaël Nadal, sa 11e à Roland-Garros, ça égale un record. Il a 17 titres maintenant en Grand Chelem. Il est à 3 du record de 20 de Roger Federer. Et évidemment, il va conserver son numéro 1 mondial avec cette victoire-là en 3 manches, 6-4, 6-3, 6-2 contre Dominic Thiem. Au Grand Prix du Canada, c'est toujours Sébastien Vettel qui mène avec maintenant une dizaine de tours à faire à l'épreuve. Vettel a une avance maintenant de 7 secondes sur Bottas, de 11 secondes sur Verstappen, 20 secondes sur Ricardo. Ensuite viennent Hamilton et Raikkonen. Encore une fois, les trois écuries de pointe qui occupent les 6 premières places. On va faire une pause, puis on va aller rejoindre à nouveau Philippe Lagut qui est sur place, de même que Maxime Sarrazin. À tout à l'heure.